en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jacques Rougeret est un architecte inspiré par la mer, un architecte du monde sous-marin. Il se définit lui-même comme un mérien, un mot nouveau qui figurera peut-être un jour dans le dictionnaire de l'Académie française. L'eau, les océans, mais aussi l'espace, la pesanteur, nourrissent ses rêves d'architecte des espaces extrêmes. Jacques Rougeret crée certes des constructions adaptées à des milieux spécifiques, mais il répond aussi sur des projets d'aménagement portuaire, des logements médicalisés, des aéroports, des bâtiments industriels. Il est un architecte d'aujourd'hui et surtout un explorateur des temps modernes, un prospecteur d'avenir. Habiter sous la mer, explorer les océans, quitter les quais embouteillés de la Seine pour s'échapper sur les eaux du fleuve sans faire de queue de poisson avec une voiture amphibie, Jacques Rougeret l'a fait. Alors, quand ce capitaine Nemo du XXIe siècle conçoit un vaisseau à voile solaire qui s'appelle l'Arche de Lumière pour l'espace ou une station orbitale, on fait un peu plus que rêver, on embarque pour la planète des rêves et on quitte le temps et l'espace du quotidien. Jacques Rougeret, bonjour.
Bonjour.
Jacques Rougeret, vous êtes connu pour être un architecte du monde maritime, pour vos vaisseaux innovants, vos musées à caractère scientifique, pour les nombreux centres de la mer que vous avez réalisés. Quel est votre lien personnel avec la mer ? Où avez-vous grandi ?
Mais justement, c'est ça, le lien premier. Si vous me posez la question, quelle est l'image la plus lointaine qui me vient à l'esprit depuis ma naissance, c'est la mer. C'est la mer parce que quand j'étais petit, dès ma naissance, je me suis trouvé sur ces grandes plages africaines avec mes parents. Le dimanche, on allait tous les dimanches pique-niquer le long de la mer avec cette grande houle qui venait du large de l'Atlantique, cette grande barre qu'on appelait. Et pour moi, c'est le premier regard que j'ai eu sur le monde, enfin celui dont je me souviens le plus lointain. Et j'étais fasciné. Et après, les années se sont écoulées et régulièrement, tous les dimanches, j'allais voir cette grande barre, cette grande houle, ce grand océan. Et puis ces hommes qui, minuscules par rapport à cette immensité, montaient, c'était les pêcheurs africains qui montaient à la lame, comme ça, avec une audace et qui étaient, avec la force de la houle, qui étaient suspendus pour un instant en l'air et retombaient dans leur barque. Et ça m'a fasciné, voilà. Alors, est-ce que c'est là l'origine de cette passion et par rapport à la mer, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu des chocs successifs qui ont provoqué cette passion, cet amour pour la mer. Un deuxième choc, c'est en 56, quand mon père, qui était dans ce monde de la recherche sur l'environnement, sur la géographie, m'a amené voir le monde du silence. Cousteau sortait le monde du silence, comme il connaissait tout cet environnement de Théodore Monod, de Cousteau, de Paul-Émile Victor. Donc, j'étais baigné, vous voyez, dans ces mondes d'aventure dès mon plus jeune âge. Et donc, le monde du silence m'a complètement bouleversé. Il s'est vraiment passé un déclic, une chose extraordinaire, quand j'ai vu que sous la mer, contrairement aux romans que j'avais pu lire, à toute la mythologie, que la mer engloutissait uniquement les hommes, et ce qui était vrai, ce qui est toujours vrai, malheureusement, tristement. Mais la mer, c'était aussi un champ merveilleux de jardins multicolores, avec des animaux extraordinaires, avec des galaxies du corail, avec des saisons. Et Cousteau nous expliquait que sous la mer, il y avait des saisons comme sur la Terre, il y avait des floraisons, il y avait le printemps, il y avait l'automne. J'étais émerveillé, voilà. Et après, du coup, ça m'a donné envie de lire 20 milieux sous les mers.
Ah,
et
c'est
là,
après.
Alors, ça n'a fait qu'accentuer encore cette passion. Et le capitaine Nemo, ce vécu sous la mer, cher à Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, cette vision m'a vraiment donné les premières bases de ce qui allait être après mon métier, ma passion, qui est complètement liée à mon métier.
Et quelles sont aujourd'hui les histoires qui vous emportent ?
Il y a plein d'histoires qui m'emportent. J'essaye de cantonner mes passions parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de rêves. J'aime bien que les rêves se réalisent, que les passions se vivent. Donc je suis passionné par la musique, je suis passionné par tout le monde artistique. Je suis passionné par l'évolution de tout ce qui se passe dans nos civilisations. Même avec ces contrastes, ces duretés, je suis pas naïf sur ce qui se passe, mais j'ai un regard particulier sur le futur et je donne toute la puissance de mon imaginaire et de ce que je peux faire à mon petit niveau pour apporter quelques brins de réponse ou de cheminement possible pour les générations futures. Voilà, je tends vers ce futur d'une façon constante et c'est clair que le premier homme sur la Lune, le premier pas donc sur la Lune, ces premières maisons de Cousteau sous la mer n'ont fait là aussi qu'aller m'embarquer dans cette grande aventure. Voilà, c'est pour ça que je me retrouve ici à construire donc des maisons sous-marines maintenant.
On n'a pas parlé de votre formation, comment vous êtes devenu architecte, parce que vous n'êtes pas seulement architecte, vous avez fait un double cursus, enfin plusieurs même, vous avez une formation d'architecte, d'océanographe, vous avez fait les Beaux-Arts.
Oui, alors,
donc là vous avez
un cursus secret, j'ai d'abord
quand même particulier.
Fait de la musique, je voulais devenir musicien et j'ai compris que j'étais pas particulièrement doué et comme j'étais très exigeant, je ne pouvais pas supporter d'être médiocre dans cet art qui est extraordinaire. Donc j'ai abandonné, sans regret et en même temps avec beaucoup de tristesse.
Vous aviez un instrument ?
Oui, plusieurs. Mais ça fait partie de mes jardins secrets. Déjà là, vous voyez, je vous livre une partie de jardins secrets. Mais j'avais toujours en tête de bâtir. La notion de construire ses rêves a toujours été présente quand j'étais môme. J'aimais les mécanos, construire. Je ne suis pas doué de manuellement, mais j'aimais cette notion de bâtir, d'imaginer quelque chose, de le dessiner et de pouvoir le réaliser, de le voir. Et surtout, on a cette chance en architecture. Pas mal de nos bâtiments, plus exactement, peuvent rester pérennes. Et ça, c'est une magie quelque part, c'est un don. Vous savez, c'est comme on a envie d'avoir des enfants pour. C'est dans une logique biologique. Et bien, l'architecte, il a cette chance unique, c'est de perdurer après à travers ses œuvres. Voilà. Donc, ça me fascinait, je le dis honnêtement. Et donc, en parallèle, j'ai fait en effet mes études de scénographie pour essayer de comprendre ces mondes nouveaux, ces mécanismes fragiles déjà. À l'époque, on pensait à l'environnement quand on était, disons, dans ce milieu de l'océanographie. Et je voulais bâtir pour ces scénographes donc des maisons sous la mer. J'allais voir Cousteau, je lui en parlais. Lui-même faisait ses maisons sous la mer. Donc, j'étais au bon moment, au bon endroit. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ces deux études, l'océanographie et l'architecture.
Oui, mais ça vous donne aussi une casquette scientifique qui vous permet aussi probablement de répondre.
Je n'ai pas cherché
répondre.
Le côté scientifique. Le problème, c'est qu'avec les architectes, je ne pouvais pas. Alors, j'ai eu beaucoup de chance là aussi. Vous savez, moi, j'ai eu énormément de chance dans mon existence. Et j'en suis conscient et ça me rend modeste parce que j'espère. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens d'exception et qui m'ont accompagné. Par exemple, Paul Mémon, qui avait déjà fait des recherches sur la baie de Monaco, l'extension de la baie de Monaco, l'extension de Monaco, des recherches sur des structures flottantes. Donc, il a été tout de suite très attentif. Il m'a aidé à m'exprimer dans ses recherches d'habitat sous la mer. Et pour moi, ça a été une chance unique. Ça a été une chance extraordinaire. Parce que, si vous voulez, à part Paul Mémon ou Fraiotto, donc ils m'ont accompagné en tant qu'architecte et certains ingénieurs. Donc, beaucoup d'architectes, c'était une aventure qui ne les concernait pas. Donc, il fallait que j'intéresse les océanographes, les gens du monde de la mer. Et donc, pour les intéresser, pour pas que ça paraisse utopique, et il fallait avoir leur langage. Et j'ai davantage fait des études océanographiques pour chercher avec eux ce langage, cette communication, plus que pour devenir scientifique. Je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas cette prétention.
Habiter la mer, au-delà de la réflexion architecturale et du défi que vous étiez donné en 1973, ce fut, et c'est encore, je suppose, pour vous, une philosophie. C'est comme ça que vous l'avez présentée. Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre cette formule « habiter la mer », cet objectif qui vous anime depuis 1973, et comment votre réflexion a-t-elle évolué jusqu'à nos jours ?
Alors, oui, ce n'est pas une vision personnelle. Il faut faire très attention à ça. C'est pas un individu qui décide que certains hommes vont habiter la mer. C'est soit une civilisation ou à un moment donné, décide d'aller voir sous la mer pour voir qu'est-ce qui s'y passe, de mieux l'intégrer, de mieux la comprendre, la connaître, la gérer, l'exploiter. Donc, et puis pour le bien-être, le plaisir d'aller passer un week-end sous l'eau ou des vacances sous la mer, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité qui était naissante dans les années 70, donc à travers ces maisons sous-marines américaines et françaises au Cousteau. Et donc, on était en plein dans ce développement de l'aquaculture, faire des fermes sous-marines pour l'élevage, tirer les énergies, déjà à l'époque, hein, début des années 70, les énergies comme les hydroliennes, les énergies des mers avec les différences de température, les nodules polymétalliques, tout ce qui est offshore. Donc, c'était une réalité. C'était, il y avait à l'époque une floraison à travers le monde de projets extraordinaires. Et puis, c'était l'extension de certaines villes comme Tokyo sur la mer, Monaco, voilà, des aéroports offshore. Donc, il y avait une forme d'insouciance peut-être par rapport à l'environnement, mais il y avait vraiment cette volonté de conquérir ce nouveau monde qui était l'espace subaquatique. Voilà. Donc, cette notion est apparue d'habiter la mer, même si on n'allait pas pour des questions de surpopulation ou ainsi de suite. On n'allait pas définitivement vivre sous la mer, bien sûr. C'est pas dans les gènes de l'homme. Mais on était en plein dans cette prospective, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a défini toutes ces recherches par rapport à ce thème Habiter la mer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ?
Ben il en est. Ou qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que ça devient ?
Alors, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste beaucoup de choses, avec des hauts et des bas, comme toujours. Le monde de l'espace, le monde sous-marin, quand vous avez une crise économique, une crise pétrolière, que vous avez une guerre à tel ou tel endroit, malheureusement, que vous avez une épidémie, ainsi de suite, on revient à ce qui est essentiel pour le moment. Donc, l'évolution de l'humanité à travers les siècles ne s'est pas faite d'une façon exponentielle. Ça a des hauts, des bas, ça redescend, ça revient, ça repart, et ainsi de suite. Donc, dans l'imaginaire et dans les rêves et les destins des hommes, il faut accepter ces hauts et ces bas. Et c'est vrai que les années, fin des années 70, la crise pétrolière donc a freiné l'économie, a freiné cette prospective. On est revenu à des choses plus essentielles, plus immédiates. Et puis, la robotique est arrivée. On a dit, est-ce qu'il faut envoyer des hommes dans l'espace, des hommes sous la mer ? On s'est posé la question, ça a encore repris 10 ans. Et puis, un homme ayatollah politique par-ci, politique par là, on considérait que l'homme dans l'espace ou sous la mer n'était plus nécessaire. Et puis, on s'aperçoit à nouveau, les Américains, d'ailleurs, comme les Russes, comme les Chinois, comme les Européens, s'aperçoivent que l'homme dans l'espace, le devenir dans l'espace, est indispensable parce que l'homme a besoin de se surpasser, l'homme a besoin de créer des nouvelles visions de ce que pourrait être le monde de demain, que ce soit sur Terre, parce que ça a des retombées de faire cette recherche spatiale, a des retombées médicales, des retombées sur des tas de ne serait-ce qu'à travers l'informatique. Il n'y aurait jamais eu d'informatique s'il n'y avait pas eu le premier homme sur la Lune. Les gens oublient. Il n'aurait jamais eu le téléphone portable s'il n'y avait pas eu l'homme dans l'espace, et ainsi de suite. Donc, sous la mer, c'est pareil. Il faut donc amener ces nouvelles civilisations et les accompagner pour le monde de l'espace et le monde sous-marin.
Quelle différence ou quelle similitude pour l'architecte entre ces deux espaces sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, la mer et l'espace ?
Entre le monde de l'espace et le monde de la mer, il y a énormément de différences. Il y a certains points, par contre, communs de recherche. C'est pour ça que le monde de l'espace est très lié au monde sous-marin, parce que tout ce qui est au niveau d'une certaine physiologie, vie en milieu confiné, en milieu extrême, la façon d'organiser l'existence des êtres dans des capsules ou dans des stations orbitales ou dans des stations sous-marines a pas mal de similitudes. Donc, dans l'organisation et la préparation psychologique et dans tout ce qui est dans l'organisation de vie, dans le rythme de vie, dans une similitude aussi dans l'ergonomie, déplacement d'objets, on se trouve en 3 dimensions. Sur Terre, on est encore en 2 dimensions, toujours avec le point de référence, les pieds bien ancrés sur le plancher des 1000 vaches. Là, on est le corps comme un oiseau qui vole dans l'espace, et sous la mer, on vole dans cet élément liquide, amniotique, d'une certaine façon. Donc, on est baigné complètement de cet environnement aquatique. Et donc, la perception, tout ce qui est sensoriel, la perception des choses, la vision, tout, se trouve un peu en similitude du positionnement du corps, parce que vous pouvez avoir la tête, vous savez plus si la tête est à l'envers, à l'endroit. Vous perdez le sens un peu, vous n'avez plus d'horizontalité, il n'y a plus de raison d'avoir l'horizontalité. Donc, tous les sens se trouvent en alerte d'une autre façon. Et c'est ça, cette similitude entre ces deux mondes, c'est vrai. Mais alors après, comment bâtir la construction proprement dit, c'est complètement différent parce que les lois physiques ne sont pas les mêmes automatiquement. Sous l'eau, on a, comme dans l'espace, mais c'est d'autres lois physiques. Sous l'eau, on a des contraintes de pression qui sont énormes. On a des problèmes de poussée d'Archimède qui sont énormes. Parce que, eh ben, imaginez que pour faire tenir un mètre cube, c'est rien. Vous ne pouvez pas vivre dans un mètre cube. 50 mètres cubes, ce n'est pas grand-chose. 100 mètres cubes, ça commence à devenir intéressant pour faire vivre un équipage de 3 à 4 personnes sous la mer. Donc, ça fait déjà 100 tonnes de poussée. 100 tonnes de poussée, ça commence à faire. Donc, il faut tenir 100 tonnes de poussée sous l'eau, plus le mouvement, le brassage de l'eau. Donc, il faut rajouter encore, multiplier par 2,5 pour tenir ces 100 tonnes. Donc, on en est à 2,5. Vous voyez, les chiffres techniques deviennent très vite exponentiels, là, par contre.
Vous avez réalisé un laboratoire sous-marin.
Plusieurs, Galatée.
Vous avez vraiment sur ce domaine beaucoup travaillé, réalisé, construit, et puis vous avez aussi expérimenté vos réalisations.
Tout à fait.
Ça c'est rare quand même.
Voilà, parce que vous
détenez même un record mondial de séjour sous la mer de 70 jours. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Le plus important, ce n'est pas le record en soi. Je ne suis pas un recordman de tempérament. Ce qui m'a intéressé, c'est plus cette longueur de 70 jours. Non, si vous voulez, pour moi, ce qui est important en tant qu'architecte, à partir du moment où vous œuvrez pour essayer d'amener à ces hommes du monde sous-marin qui doivent être dans des disciplines très diversifiées, qui ne sont pas des Superman, c'est comme dans l'espace maintenant. Donc, il faut rendre accessible au plus grand nombre ce monde sous-marin pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité, en toute harmonie, et qu'ils y trouvent du plaisir, qu'ils y trouvent un sens. Donc, il faut leur bâtir un environnement en tant qu'architecte qui corresponde bien au milieu, qui soit bien adapté à ce milieu très spécifique, qui les sécurise et qui sentent qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel, qui ne peut pas être vécu sur la Terre, c'est impossible, donc est vécu autrement. Et donc, il faut qu'ils conservent de ce passage, qu'il soit de 24 heures, qu'il soit de 15 jours ou 70 jours, comme on a fait. Il faut qu'ils aient envie d'y revenir. Voilà, qu'ils aient envie, qu'ils se sentent bien, qu'ils sentent que c'est autrement. Les astronautes, quand ils vivent dans les stations orbitales, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir. Rares sont les astronautes ou cosmonautes qui ne veulent pas revenir dans l'espace. Très, très rares. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose de magique. Et pourtant, ce sont souvent des gens très formatés, un peu militaires. Eh bien, n'empêche qu'ils redeviennent avec ce rêve d'enfant, avec ce rêve du petit prince, de « dessine-moi une maison », de... Vous voyez, c'est... L'homme a un imaginaire extraordinaire, je crois. Il faut accompagner cet imaginaire.
Vous participez depuis 2003 au programme NEMO qui entraîne les astronautes de la NASA dans un habitat sous-marin. C'est un programme auquel vous avez participé, c'est-à-dire que vous avez aidé à la réalisation de la construction où évoluent ces astronautes.
Non,
en termes d'expérimentation à propos de matériel, je ne sais pas, c'est pour en savoir plus.
Oui, tout à fait. Il se trouve que comme nous avons réalisé 3 habitations sous-marines, Galatée, Hippocampe, Aqualab, donc à travers le monde, il y a eu 56 maisons sous-marines de réaliser. Et donc, on n'est quand même pas nombreux. C'est déjà pas mal. Hein. Peu de Français savent qu'il y a eu 56 maisons sous-marines de construite. Et on est donc un petit clan très privilégié à travers le monde. Donc, on se connaît tous. Donc, on s'invite. Et j'ai eu la chance que Bill Todd, qui est donc à la NASA, l'homme qui prépare les astronautes pour l'espace, et donc il les prépare sous la mer, dans des maisons sous-marines, et plus particulièrement dans ses programmes NEMO. Donc Bill Todd, avec qui je suis extrêmement lié, qui regarde avec beaucoup d'intérêt ces recherches que nous avons menées sur Galatée, Hippocampe et Aqualab, et maintenant Sea Orbiter, me fait participer pour, parce que physiquement, j'ai besoin, comme je disais tout à l'heure, de vivre en tant qu'architecte ce qu'on imagine pour les améliorer, pour les rendre plus performants, pour vivre avec ces équipages ces moments de vie extrême. Et il faut pouvoir, d'une mission à l'autre, améliorer de plus en plus ces maisons sous-marines, cet intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il me fait participer à ce programme NEMO régulièrement tous les ans. Donc, on vit au large de Key Largo, en pleine mer, à moins 15 mètres de profondeur, dans une maison qui sont les programmes NEMO, avec un équipage d'astronautes de ils ne sont pas toujours 6 astronautes, parce qu'il y a toujours un toubib qui est à bord, un chirurgien, il y a toujours un scientifique, donc disons 3 à 4 astronautes et les invités dont je fais partie. Donc voilà, pour voir ensemble quelle sera demain les futures bases lunaires, bases sur Mars, station orbitale, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer et comment, à travers ce monde sous-marin, on peut développer une certaine ergonomie. Et en même temps, nous, ça nous sert pour développer nos propres recherches d'aquanautes.
Alors, je vais peut-être revenir sur des réalisations, non pas plus accessibles pour nous, mais qui nous parlent peut-être encore plus, puisqu'on a tous un petit côté marin. Vous avez conçu et réalisé des vaisseaux assez révolutionnaires. Justement, vous avez travaillé sur ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur de deux mondes qui sont complètement opposés. Vous avez construit des bateaux qui permettent de voir les fonds marins, des maisons sous-marines, bien sûr, mais comment cette obsession d'être dedans, dehors, on y est, et on est effectivement sécurisé. Le peu que j'ai vu, moi, sur des vidéos de ces vaisseaux qui sont magnifiques, et on a envie d'y être, alors que moi, j'ai une trouille monstre de la mer. Ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur...
Si vous voulez, le marin, c'est un aveugle de la mer pour moi, avec toute la tendresse que je leur porte et le respect. Mon vieux copain, Kersozon, le dirait mieux que moi. Un marin n'est pas fait pour aller dans la mer. Non, j'ai bien dit dans la mer, pas sur la mer. Vous m'avez bien compris. La mer, c'est un miroir changeant. Voilà. Et ce miroir en dessous, pour un marin, c'est synonyme de mort. Donc, on ne met pas le doigt de pied dans la mer, on ne met pas le moindre doigt dans la mer. Sans ça, gare à vous. Donc, on est fasciné par cette grande dame et on veut toujours aller revenir la revoir. Mais quelque part, on la craint et on a raison. Mais en même temps, elle nous fascine. Voilà. Donc, c'est tout. C'est une aventure. Et moi, j'ai pensé, simplement parce qu'on se trouve à la bonne époque, à travers les technologies, à travers le Cousteau. Donc, ils ont eu le culot d'aller voir sous l'eau. Ils se sont rendus compte qu'il y a ces merveilles dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des engins semi-submersibles ou même les bateaux, leur mettre des yeux aux bateaux. C'était simple, la technologie le permet. Bon, ils m'ont tous dit que c'était ridicule, que ça servait à rien, qu'on n'avait pas besoin d'aller voir sous la mer. Donc, vous voyez bien que ce ne sont pas des mériens, ce sont bien des marins. Les mériens, c'est un peuple qui vit en harmonie avec l'espace sous-marin, qui a sa propre culture. Les marins ont leur culture propre, ont créé ces champs pour leur donner du courage ou passer le Cap Horn, ainsi de suite. Donc, il y a eu toute une... Ils ont leur propre langage, en quelque sorte. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est des mériens. Mais il faut faire cette transition. Donc, on met des yeux au bateau. C'est quoi mettre des yeux au bateau? C'est mettre des coques en polycarbonate, complètement transparente. Donc, je me suis fait mon bateau, puisque personne ne voulait le faire. Donc, je l'ai dessiné. Il ne pouvait être ressemblable à aucun autre bateau. Donc, j'ai mis une coque, c'est un trimaran, de 20 mètres de long, complètement transparent.
Vous parlez de Nausicaa ou de la...
Je parle de l'Aquaspace. Avec lequel, qui était un voilier, qui est toujours un voilier, il existe toujours, avec lequel j'ai traversé l'Atlantique pour suivre la migration des baleines. Et donc, j'ai eu cette chance fantastique de suivre la migration des baleines et de faire toute la traversée de l'Atlantique sous la mer. Voilà, vraiment sous la mer. Donc, ce n'est pas un rêve fou, c'est une réalité, ce n'est pas de l'utopie, ça existe. Et donc, ce bateau, je l'ai gardé pendant 7 ans. Et j'ai parcouru les mers avec ce bateau pour voir les tortulutes, pour voir des bandetons et ainsi de suite. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire d'autres engins pour que tout le monde, que les enfants puissent voir sous l'eau ces merveilles en toute sécurité. J'ai fait des semi-submersibles qui s'appellent les aquascopes. C'est petit trimaran aussi, avec des grandes ailes, comme une remonta, et qu'on remplit d'eau, donc et on pompe l'eau de mer, on ballast, c'est comme un sous-marin, il s'enfonce sous l'eau, et cette nacelle d'hélicoptère, comme une nacelle d'hélicoptère, permet à 10 personnes de se promener le long du rivage, des parcs marins comme Port-Cros, et de voir ces merveilles, au contraire, le dégât que peut faire, c'est un côté pédagogique, donc éducatif, de montrer aux enfants les conséquences de la pollution, ou au contraire, quand un jardin sous-marin est bien entretenu, eh ben, ça a des beautés. Et ça peut permettre d'être porteur de plein de choses.
Jacques Roger, quelle est votre vision architecturale globale ?
Elle est extrêmement positive parce que je pense que ça m'a aidé aussi. J'étais un peu en colère après les architectes à une époque et je ne suis plus en colère. Parce que dans les années 60, fin des années 60, j'ai eu cette chance, début des années 70, de parcourir le monde à la rencontre des peuples de l'eau, à tous ces peuples liés à travers les siècles qui vivent sur le long du littoral et de bien comprendre comment s'organisent socialement leur vie et tout et comment ils ont bâti cette architecture propre à un milieu. Et de voir toute cette architecture un peu identique à Tokyo, au Brésil, en Amérique du Sud, ça me gênait, voyez-vous.
Une uniformité que vous sentiez.
Oui, une forme d'uniformité. Je pense que l'homme a assez d'imagination pour, à travers les espaces géographiques et les contraintes que ça représente, et à travers les cultures, bâtir le futur, pas bâtir des choses du passé, mais avoir un imaginaire. Les matériaux sont là, sont variés. On peut créer une architecture complètement adaptée à ces environnements géographiques propres. Voilà, c'était ma naïveté et ma colère. Et maintenant, il y a une prise de conscience là-dessus, sur le développement durable, sur l'environnement. Je vois tous ces architectes qui de plus en plus travaillent là-dessus à travers le monde. Et ça me remplit d'un immense plaisir et je suis très optimiste. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. En plus, les industriels commencent, même si c'est pas suffisant. Il y a une accélération, il y a certains politiques. Donc, tout ça est en train de prendre corps, même si c'est insuffisant. Il y a quand même une réalité de concrétisation de ces grandes idées des années 70.
Concrètement, vous participez là au grand projet d'urbanisation en baie de Monaco. Quel constat faites-vous de l'urbanisation littorale, justement, dans cette région?
Ah, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Justement, le prince Albert nous a demandé à Foster, à Franck Guéry, enfin à tous les architectes qui ont été donc sélectionnés, nous a bien expliqué, demandé de se baser sur le développement durable, sur l'environnement, la protection de la nature, les courants océaniques et de bien faire attention aux parc du Larvoto et de faire attention aux tombants à corail. Donc, on avait une mission très très claire sur le développement durable et nous, on avait une équipe où on a vraiment bien répondu à cet aspect-là. On était complètement en marge et en dehors de ce qui s'est fait le long du littoral ces dernières années.
Comment est-ce qu'on peut faire changer? Quelles réponses vous avez apportées? Parce que ça paraît tellement un mur construit comme
non,
ça, cette côte.
Non, c'est pas du tout un mur. Alors
non,
nous,
mais
notre projet.
En ce moment...
ah, moi, je n'ai pas... Ah, à l'heure actuelle, oui, là, ils ont fait fort. D'abord, ce côté romantique un peu de Monaco, ce charme extraordinaire qu'avait la principauté a été, dans les années 60, 70, un peu massacré, il faut être honnête, à travers l'architecture dont je vous parlais, qu'on retrouve à Tokyo. Donc, elle a perdu de sa propre identité. Et puis, ce lien à la mer a été gâché. Le Monégas ne se retrouvait plus par rapport à ce rivage merveilleux, plein de poésie. Et donc, on a essayé, nous, de faire un projet en faisant une sorte de Venise des temps modernes sur pilotis, avec des grandes digues de protection, bien entendu, pour protéger Venise de Monaco. Et ces digues sur pilotis, c'est des grandes colonnes de 40 mètres de diamètre sur 80 mètres de haut. Donc, c'est un projet titanesque. C'est vraiment les colonnes d'Hercule, mais avec une vraie technologie. C'est pas un projet d'architecte. C'est un projet d'ingénieur, d'architecte, bien entendu. Donc, on était une équipe de 60 personnes, où on a eu de très gros moyens pour faire des essais en bassin de Carène, pour bien voir les modifications, enfin les courants, comment les respecter, d'avoir le moins d'impact sur le milieu. Je pense qu'on est le projet qui avait le moins d'impact sur le milieu. Pour X raisons, donc le projet a été différé, donc est remis dans 2 ans, donc la compétition repartira dans 2-3 ans, j'espère.
Écoutez, on reste un peu sans voix, une Venise sur...
Oui, qui captait les énergies de la mer, captait ces hydroliennes, donc ce sont des éoliennes sous-marines, et comme il y a des grands courants littoraux, on faisait de grandes hydroliennes sous l'eau, et on faisait des énergies aussi qui venaient de la différence de température, comme on a la chance d'avoir ce tombant, la montagne, ce cirque que représente Monaco continue sous la mer, donc on captait la différence de température pour créer de l'énergie, l'énergie solaire évidemment, l'énergie éolienne, l'énergie de la houle, donc l'ensemble de ces énergies étaient basées donc sur une énergie positive de tout l'équipement qu'on devait construire, de ces 300 000 mètres carrés qui prenaient aussi bien dans un programme d'université, donc avec des écoles, avec des habitations, des bureaux, des commerces, et puis surtout l'opéra subaquatique, le grand musée qu'on faisait sortir du monde sous-marin à côté de la Venise.
La pluridisciplinarité a aussi pour vous beaucoup d'importance. On vient de parler des questions d'environnement. Évidemment, vous travaillez en équipe. Vous avez toujours eu cette démarche. Au sein de votre agence, je crois qu'il y a des sociologues qui travaillent, des artistes qui travaillent avec vous, des écologistes. La bionique, c'est quelque chose qui vous a inspiré, qui vous inspire depuis toujours dans les formes que vous avez créées. Est-ce qu'il n'y a pas de création sans pluridisciplinarité pour vous ?
Alors, d'abord, je suis pas donneur de leçons, donc il peut y avoir, on peut pas dire ça, je ne pense pas. Vous pouvez avoir un musicien qui crée seul, en solitaire, ou un peintre, ou un sculpteur, ou un architecte. Moi, ce n'est pas ma vision personnelle, donc ça n'engage que moi. Je ne peux pas créer sans cette pluridisciplinarité. Je ne sais pas faire. J'ai besoin de puiser, d'échanger, de composer avec toutes ces notes de musique, avec tous ces solistes des différentes disciplines pour créer ces mondes nouveaux. On ne peut pas créer ces mondes nouveaux avec une simple vision d'un architecte. Ça a trop de conséquences. Mais soyons clairs, quand on voit le Grand Paris, pour moi, c'est pareil. Si j'avais participé à ce grand projet, j'ai participé au grand projet de Monaco, on s'est... Avec Tonio Besciu, on a monté toute une équipe justement pluridisciplinaire pour accompagner ce projet. C'est pas le projet de Besciu, de Rougerie, d'Alain Charles Perrault, de Boisson. Non, c'est toute une équipe de 60 personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui ont composé, qui ont fait la symphonie de ce projet. Moi, je ne peux pas travailler autrement. Voilà, donc parce que je n'ai pas un imaginaire, je me nourris à travers cette composition. Le gros souci que nous avons eu pour bâtir sous la mer, c'est de partir de quoi ? Ça, c'est facile à comprendre. Quand vous bâtissez sur terre, Vous le trouvez dans un lieu géographique où il y a une culture, où il y a un passé, il y a des traditions. Donc, vous ancrez un projet à travers tout ce passé et ce futur qui est en train de naître. Donc, vous le faites surgir avec la passion que vous y mettez. Mais vous avez des points de repère. Donc, vous avez toujours des points de repère. Vous puisez, même si un architecte est très autodidacte. Mais justement, c'est la force qu'il a, c'est d'être autodidacte, d'aller toujours à la recherche, d'observer et de construire donc ce qu'il imagine. Sous l'eau, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de référentiel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de vécu vraiment. Il y a eu quelques petites expériences comme dont on parlait. Qu'est-ce que c'est 56 habitats sous la mer? C'est rien par rapport à milliards, pas milliards, mais presque, de maisons, d'édifices créés par l'homme à travers la planète. Donc, il n'y a rien. Donc, il fallait bien créer une architecture et adapter à ce milieu. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a une logique implacable qui s'est imposée. Un petit peu, j'ai observé un peu Léonard de Vinci, comment il imaginait ce qu'il le portait. Léonard de Vinci, il observait la nature. Il observait la nature et ça lui amenait plein de points de repère pour construire le futur. Et quand il a imaginé l'hélicoptère, il a regardé tous ces animaux qui volent et il a essayé de comprendre comment on pouvait être en stationnaire, parce que c'est ça qui l'intéressait, c'était le stationnaire. Comment un engin pouvait se déplacer, on savait, mais comment il pouvait rester en position fixe dans l'air et qu'il ne se soit pas un ballon et qu'il puisse se déplacer, hop, rester en position fixe, se déplacer, ainsi de suite. Eh bien, en regardant la libellule, il a compris comment la libellule restait en stationnaire, avec ses pales à géométrie variable. Donc du coup, il a construit l'hélicoptère. C'est lui le premier qui a donc eu l'idée de l'hélicoptère. Vous voyez, c'est ça la bionique. C'est observer la nature sous l'eau, pour moi, donc pour construire ce futur des hommes sous la mer. Et c'était le meilleur point de repère, c'était la meilleure adaptation possible. Voilà. Donc je suis parti de la bionique, ça m'a donné un fil conducteur, ça nous a donné un fil conducteur pour bâtir ce futur. Et la preuve, c'est que j'ai eu le plus beau compliment par vraiment l'homme des maisons sous la mer aux États-Unis, qui est le pape des maisons sous la mer, et qui m'a dit, Jacques, en toute humilité, je dis ça, hein, Jacques, quand tu as construit Galatée, tu as fait faire un pas de géant dans ce monde sous-marin. Parce que c'était la première fois qu'une maison sous-marine correspondait bien à ce milieu. Avant, c'était, soyons pas péjoratifs, mais un peu des bidons qu'on mettait sous la mer, des cylindres, des sphères. On restait toujours dans cette gamme. Bien sûr, pour des contraintes techniques, bien sûr, il fallait faire vivre des hommes dans un milieu confiné, difficile, extrême. Mais il n'y avait pas, c'était pas la préoccupation des ingénieurs, l'architecture. Là, pour la première fois, avec Galatée, on allait mettre dans trois dimensions une maison sous l'eau, c'est-à-dire qui resterait dans cet espace aérien sous-marin et qui serait complètement adapté à ces contraintes de physique, de pression, et qui s'apparenterait à cette bionique et qui donnerait un cadre de vie à ces hommes et ces femmes qui ont un travail à faire sous la mer, spécifique, c'est-à-dire avec ces grands hublots, avec ces grands balcons ouverts sous la mer. Donc, une osmose de vie entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'une maison sous-marine était si bien adaptée. D'ailleurs, ça a été le point de référence pour le développement futur, donc le point de repère.
Et là, vous êtes encore plus loin avec la cité
Avec Sea Orbiter, on va beaucoup plus loin.
Alors, c'est encore une autre aventure.
Mais vous savez...
Ce sont des réalisations en cours.
Oui, en cours, Sea Orbiter.
C'est un projet énorme, fantastique.
C'est un projet... Fabuleux.
C'est un vaisseau scientifique, j'allais dire fantastique, vous voyez, ouais. J'en ai vraiment.
C'est un vaisseau scientifique
d'observation des océans. C'est complètement.
Oui. C'est pas un bateau, c'est pas une maison sous la mer, c'est les deux en même temps. C'est un vaisseau, oui, on peut l'appeler comme ça, des temps modernes, qui est vertical sur 50 mètres de haut, 20 mètres au-dessus de l'eau, 30 mètres sous la mer. et qui va permettre à un équipage dont je vais faire partie, de 18 personnes, de vivre en permanence sous la mer. Mais alors là, c'est plus 70 jours, c'est carrément 4 à 6 mois sous la mer, sans remonter à la surface, mais avec un bonheur total. C'est-à-dire qu'on aura ce lien avec le monde sous-marin, puisqu'il y aura des grands hublots qui nous permettront de voir cette immensité des grands courants océaniques, de mieux comprendre un peu ces mécanismes de migratoires des baleines ou des thons ou des tortulutes ou d'autres animaux, et qui nous permettront surtout d'aller au contact de ces animaux. C'est-à-dire, dès qu'on observera un certain nombre de choses, on pourra, plusieurs heures durant chaque jour, plonger directement sous l'eau. On ne repassera pas par la surface comme tous les bateaux. Les bateaux, on est obligé de plonger de la surface. Là, il y aura un système qui permettra à moins de 12 mètres d'aller sur ce grand flotteur sous-marin qui est le stabilisateur du ciel orbitaire. Et on sera à l'extérieur. Donc, on pourra rester des heures sous l'eau puisqu'on vit en saturation. Donc, après, qu'on passe une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, dix heures dans l'eau, ça n'a plus d'importance puisqu'il se trouve qu'on est en saturation. Donc, après, le temps de remontée qu'il faudra après à la fin de l'expédition est le même qu'une fois qu'on a passé 24 heures. Voilà. Donc c'est unique, ça n'existe pas, ce n'est pas de la science-fiction, donc de l'utopie, c'est une réalité. On est en plein dans les plans d'exécution avec la DCNS, donc la Marine nationale, et donc c'est quelque chose qui va voir le jour dans les deux ans qui viennent.
Des rêves concrétisés là, dans une aventure qui va. Je pense que le public va suivre, les écoles. Il y a aussi une volonté pédagogique.
Ça, c'est un autre aspect de ma passion.
Qui est un peu lié à tous vos projets.
C'est très
vous
lié.
Avez été, vous êtes enseignant en architecture, vous avez enseigné dans plusieurs écoles, mais en plus, vous avez ce souci que toutes vos réalisations servent le savoir. Donc, c'est suivi. Il y a des programmes avec les écoles, ou bien des actions, des associations. Vous êtes aussi un homme d'action, pas seulement
c'est vrai,
un marin.
C'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de transmettre, c'est vrai que j'ai toujours à cœur de l'éveil des enfants, parce que d'abord c'est magique de voir les mômes, leurs questions, leur naïveté, mais tellement vrai souvent. Et donc ça n'a pas de sens si on ne bâtit pas pour eux, si on ne les accompagne pas à s'épanouir dans leur futur. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais une fois de plus, je ne suis pas un donneur de leçons dans ce que je dis, ça ne concerne que moi-même. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que beaucoup, pas tous, n'exagérons pas, mais pas mal des réalisations que nous menons sont très liées à ce côté éducatif. Par exemple, les centres de la mer sont très liés à l'éveil et à ces vocations qu'on veut créer chez les enfants, pas forcément d'être des mériens, pas forcément d'aller sous la mer, mais de protéger cet environnement, cette planète, sous des tas d'aspects, avec des solutions très simples, donc de leur faire comprendre que ça les concerne. Et puis ils ont envie qu'on les aide. Et spontanément, ils ont cet instinct animalier de en eux, vous voyez, de dire mais il faut faire quelque chose, plus que les adultes même. Simplement, ils ne savent pas toujours l'exprimer et il faut les aider à l'exprimer. Voilà, c'est pour ça qu'entre autres,
Vous faites partie du comité l'école nationale de l'école AGI.
Oui, de l'école AGI, je suis très heureux, donc avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, c'est vraiment quelque chose de fantastique qu'ils ont mené, de créer le Grenelle de l'environnement par rapport à l'école, et ils l'appellent l'école AGI. Ils ont monté un institut dont je fais partie, Claudie André D, bien entendu, en fait partie. Claudie Hénuret, si vous préférez. Moi, je l'appelle toujours par rapport à la première femme dans l'espace. Voilà, donc on œuvre pour accompagner ces enfants à avoir des actions citoyennes et des actes, pardon, citoyens. Et que ce soit utile, ce qu'ils font. C'est pas, on n'en est plus à la prise de conscience. On a dépassé ce cap. Maintenant, il faut agir. C'est pour ça que ça s'appelle l'école agit. Par exemple, le jour, j'étais à l'école rue de Sèvres, donc dans le 15e. C'était fantastique le travail qu'ont fait les enseignants avec les élèves de faire une serre dans leur école, donc dans la cour de récréation. Ils ont tout un espace où les enfants ont fait leur jardin et ils ont cultivé leurs radis, leurs tomates, leurs concombres. Et en plus, ils l'ont goûté, ils nous ont fait goûter. Mais ils ont découvert les fruits, comment ça marchait la nature. Et le fait d'avoir fait cet acte, pour eux, c'est très fort, c'est très, voilà, c'est ça des actes citoyens qu'il faut donner à ces enfants, les accompagner.
La cause du développement durable, elle est un peu faite pour vous aussi. Je veux dire, elle a l'air de vous correspondre beaucoup. Je vous dis ça, mais vous en avez parlé, mais c'est un combat pour vous ou une cause
Non, c'est un vrai combat.
En fait, ce que je voudrais savoir, si vous partagez ce côté un peu alarmiste sur l'état de la planète.
Non, voilà. Attendez.
C'est
non,
deux choses différentes, mais on passait du développement durable à qui semble vraiment s'inscrire dans quelque chose de très important.
Il y a deux connotations. Non, je suis alarmiste dans le sens de dire il y a le feu et il faut prendre des décisions qui s'imposent, ne pas avoir peur de faire des actes et de sacrifier certaines choses pour sauvegarder l'essentiel. C'est comme un arbre qui pourrit, on coupe des branches et à un moment donné, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Je crois que l'homme est capable de ça. Donc, alarmiste, non, pas dans ce sens dramatique. Je crois en l'humain, je crois aux capacités de l'humain de rebondir, de se repositionner par rapport à l'environnement, par rapport à la nature, par rapport à ce futur. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas alarmiste. Je suis alarmiste dans le sens où je tire les sonnettes d'alarme, nous tirons les sonnettes d'alarme parce qu'il est plus que temps de réagir. Voilà, il faut vraiment réagir. Il y aura des choses qui seront maintenant trop tard. Mais c'est ainsi. Alors est-ce qu'il faut baisser les bras sous prétexte que c'est trop tard? Non. On n'a pas le droit pour les générations futures dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas le droit de baisser les bras. Il faut accepter ces erreurs faites par les humains. Ils ont fait de tellement belles choses à côté. Bon, ben, ok, on va pas être masochiste, on va pas se faire harakiri. Il faut repositionner nos actes dans cet environnement, par rapport à l'environnement. Donc, le développement durable, c'est une réalité. Il faut l'imposer à travers le monde. Ça va pas se faire sans heurts, ça va pas se faire simplement. Ça va être au détriment, parce que de quel droit on se permet de faire la morale à certains pays qui en sont pas encore là, donc c'est pas simple. Il faut pas que ce soit une vue d'intellectuel, il faut pas que ce soit une vue de pays riches. Donc c'est beaucoup plus subtil pour que les ancrages se fassent au bon endroit. Et ça ne peut être que planétaire, le développement durable. C'est absurde de faire un développement durable, une politique de développement durable dans tel ou tel pays et pas les autres. Parce que tout simplement, je prends le cas de l'océan une fois de plus. Veuillez m'excuser d'être obsédé par la mer, mais c'est une triste réalité, ça a des courants. Si vous arrêtez une certaine pollution de rejets, par exemple en France, sans être désobligeant pour nos voisins espagnols, mais imaginez que l'Espagne continue à déverser dans la mer, et bien vous avez la remontée du golfe de Gascogne, les courants qui vous ramènent la pollution. Donc ça sert à rien, c'est les shadocks, on pompe d'une façon sans fin. Donc c'est planétaire, voilà. C'est une réalité, mais il faut le faire avec beaucoup de psychologie, beaucoup de justesse et surtout il faut accompagner les pays en voie de développement pour faire progressivement les bons choix, mais pas avec brutalité. On n'a pas le droit de leur imposer. C'est facile d'imposer à des gens qui ne sont pas au même niveau de vie. C'est impossible, qui ont des problèmes nutritionnels considérables. On ne peut pas. Voilà. Donc, il faut le mettre en place avec des vraies politique planétaire, une vraie philosophie.
Jacques Rougerie, vous allez être, comme on dit, installé sous la coupole. Vous avez
été une grande aventure.
Voilà. Vous avez été élu le 25 juin 2008 et vous serez sous la coupole de l'Institut de France pour votre installation, selon le terme consacré, à l'Académie des Beaux-Arts. C'est un moment important, solennel pour un académicien. Et votre confrère, ce jour-là, Roger Taillibert, prononcera le discours de votre installation et vous-même, vous prononcerez l'éloge de votre prédécesseur, André Wojcinski. Et ce même jour, vous sera remise votre épée dans la cour d'honneur du palais de l'Institut de France. Alors, c'est les épées d'académiciens, quand on reçoit les académiciens à Canal Académie, on leur demande, quand ils viennent pour la première fois, de décrire leur épée. Est-ce que vous pouvez lever un peu le voile sur bel objet?
Oui, parce que l'épée, pour moi, est un très beau symbole, si vous voulez, ça vous accompagne dans une certaine éthique, certaines philosophies que vous avez de la vie. Et c'est quelque chose qui protège. Ce n'est pas forcément qu'une connotation guerrière, dans la tradition guerrière. Pour moi, c'est plus comme un samouraï. C'est-à-dire, elle est là pour protéger les autres, non pas pour protéger uniquement votre vie, voilà, ou défendre vos idées. Donc cette épée très passéiste d'une certaine façon, mais très guerrière dans le sens de la protection justement de la nature, dans cette sentinelle qui doit protéger les océans, puisque pour moi, je dédie mon installation, comme vous l'avez dit, sous la coupole à tous les marins du monde qui m'ont porté sous la coupole d'une certaine façon. C'est eux à qui je dédie donc cette investiture. Et donc, j'ai voulu que cette épée soit le symbole de ces marins et de ces hommes de la mer. Et j'ai donc là aussi cherché une similitude avec la bionique. Donc, faire une épée très bionique qui ressemble à aucun animal marin, mais qui soit en même temps issue de la mer, ne pouvait pas être autrement, et en même temps issue de tous ces projets, une connotation avec tous les projets que j'ai réalisés jusqu'au dernier que je suis en train de faire, Sea Orbiter, qui est le projet le plus porteur. Et donc, quelque part, elle renferme cette force architecturale et ce devenir, donc dans sa symbolique, dans ses formes. Mais il fallait en plus quelque chose de encore plus fort. Et pour moi, le plus beau joyau, souvent sur les épées à travers les siècles, pour différentes raisons, les rois et les conquistadors ou d'autres, peu importe, ou les académiciens, mettent quelques belles pierres ou beaux diamants pour symboliser leur vision du monde ou de leur propre philosophie. Et moi, j'ai pensé à la perle. La perle, c'est le joyau le plus rare sous-marin. C'est la valeur la plus forte. Et la perle a toujours accompagné les civilisations à travers les siècles. Les femmes ont porté et portent des perles. Elles sont vivantes quand elles sont au contact de la peau. Et pour moi, la perle, c'est l'œil. L'œil, donc, ce qu'il voit, qui a une vision, une vie sur le monde. Et j'ai mis une perle au cœur de cette épée, dans un œil, baigné de liquide que j'ai été chercher en mer pour symboliser tous les océans. Et j'ai mis cette perle pour qu'elle reste vivante dans ce liquide, donc un peu amniotique en quelque sorte, ce liquide aquatique, dans cet œil donc liquide. Et voilà, pour moi, ça symbolisait toutes les mers, tous les océans du monde et tous ces hommes et ces femmes qui ont voué leur vie à la mer.
C'est vous qui l'avez dessiné?
Ah oui, non, oui, bien sûr.
Je suppose que, Jacques Rougerie, que vous connaissez l'épée du commandant Cousteau, qui avait mis pour symbole un globe en verre porté par trois dauphins. Je ne saurais pas bien la décrire. Mais...
Le commandant Cousteau avait fait une épée tout en verre avec justement...
Qui était membre de l'Académie française, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure.
L'Académie française, donc membre de l'Institut. C'était le verre parce qu'il voulait que ce soit le cristal, un peu la transparence, une sorte de fluidité... Et c'était une très, très belle idée.
Merci beaucoup, Jacques Rougerie. Peut-être, avant de nous séparer, je voudrais juste... Vous avez évoqué la perle tout à l'heure pour votre épée. Je voudrais juste dire que, effectivement, même dans vos projets, c'est toujours souvent présent, cet élément. Et pour les cités de l'océan, vous partez aussi de cette idée d'une perle au centre de cette cité future qui est un projet architectural architectural différent. Mais bon, on peut pas tous les développer, c'est vrai.
Non, c'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je cherche une symbolique liée au monde marin, la perle.
Mais c'est parce que c'était un symbole dont vous avez présenté tout à l'heure comme d'abord quelque chose de vivant, mais aussi d'intemporel.
Oui, c'est
Et
ça.
Et voilà. C'était cette idée-là que...
Absolument. La perle passe les âges, les civilisations, et dans 5000 ans, 10 000 ans, elle sera là, j'espère, et elle sera toujours présente au cœur de ces civilisations. Et elle aura toujours cette valeur intrinsèque de nous accompagner. Donc, elle crée ce lien très charnel, très fort avec l'océan, parce qu'elle est là sur la peau. Et c'est vrai, c'est pas une légende. Si vous laissez un collier de perles dans un placard, les perles meurent. Et c'est vrai, les gens le savent pas. Mais donc, quand vous avez un collier de perles ou une perle, il faut porter la perle parce que le contact avec la peau crée une réaction chimique et tient cette perle en éclat et elle garde son éclat. Elle perd son éclat, donc on dit qu'elle meurt. Mais en réalité, c'est parce qu'elle perd son éclat. Il y a une forme de réaction chimique qui maintient l'éclat de la perle. Voilà.
À bientôt, Jacques Rougerie. Merci beaucoup.
Merci à vous.